Des questions plein la tête. Toutes les réponses aux questions que vous ne vous êtes jamais posées.
Ah bon ?
Peut-on soigner avec l'effet placebo ? Épisode 2. Le côté obscur de la gélule. Bienvenue dans Des questions plein la tête sur Radio Campus Grenoble 90.8. Dans cette émission, on ne trouve pas toujours de réponses, mais on découvre toujours de nouvelles questions. L'effet placebo me fascine et j'ai voulu rencontrer des gens qui m'aident à comprendre de quoi il s'agit. Mais quand on est fasciné, on oublie parfois de creuser là où ça gratte. Alors pour cet épisode 2, j'ai décidé d'aller explorer ça. Ok, l'effet placebo, c'est un effet réel sur le corps qui nous aide à nous sentir mieux. Et ça semble donc génial. Mais est-ce que son utilisation peut poser problème ? Je suis allée poser la question.
Je suis Nicolas Pinceau, je suis professeur à l'université Grenoble-Alpes. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle TIMC.
La glissade sur laquelle il faut être vigilant, c'est ce qu'on appelle des soins de support. C'est-à-dire ça aide à un autre traitement. Et les soins de support, ils sont dans l'immense majorité utilisés en cancérologie. Et donc, est-ce que les soins de support aident à l'efficacité des chimiothérapies ou des radiothérapies ? En fait, elles aident à mieux supporter des phases de traitement. Par contre, est-ce qu'elles rendent le traitement plus efficace ou pas ? Pour l'instant, il n'y a pas de données qui montrent que c'est le cas. Donc, pourquoi il faut être vigilant ? Parce que quand, dans le cas de pathologies graves comme le cancer, vous associez un traitement réputé efficace et un traitement de support, si les gens rentrent dans une phase de rémission, il n'est pas rare qu'ils associent la rémission au fait d'avoir fait le soin de support. Et du coup, en cas de rechute, ils vont aller voir que le thérapeute, par exemple, du soin de support. Et dans ces cas-là, ça peut avoir des conséquences assez graves. Alors après, il y a une problématique éthique qui va se poser. C'est est-ce que je peux rendre un patient dépendant d'un placebo ? Et on s'aperçoit que c'est le cas. Il y a des gens, en fait, qui se mettent dans un état de dépendance à quelque chose qui n'a pas d'effet spécifique. Ça a été le cas, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, ils vendaient des power balance. C'était des bracelets avec des aimants dedans. Et c'était censé améliorer la force, l'équilibre et tout ça. Moi, j'ai vu des gens vraiment tomber parce qu'ils n'avaient pas le bracelet, quoi. Et en fait, ils se rendent dépendants d'un truc qui est sans effet. Donc, dans ces cas-là, ça crée en fait un nocebo, le fait de ne pas l'avoir. Et donc, il faut quand même bien juger de ça.
Avec le bracelet magique, c'est le triple effet. Buzz, arnaque et placebo. Le dieu marketing a encore gagné. 35€ le bracelet en caoutchouc, rentabilité maximum.
Je n'avais pas anticipé tout cela. Je me disais plutôt... ça peut pas faire de mal. Ou encore, c'est toujours mieux que rien. Pour aller plus loin dans cette réflexion, j'ai contacté l'autrice du livre « Pilule rose » de l'ignorance en médecine, qui y consacre un chapitre complet à la question du placebo.
Je m'appelle Juliette Ferry-Danini, je suis professeure de philosophie à l'université de Namur, en Belgique. Mes spécialités, c'est la philosophie de la médecine, un peu aussi l'histoire de la médecine. Et dans la philo de la médecine, j'ai inclus l'éthique, la bioéthique, l'éthique médicale. Mon livre, Pilule rose de l'ignorance en médecine, c'est un livre philosophique un peu sous la forme d'une enquête, à la fois historique et philosophique, sur le spasfon, qui est un médicament très populaire en France, très prescrit, très vendu. C'est des petites pilules roses qu'on prescrit pour tout ce qui va être douleur menstruelle, douleur abdominale aussi.
Le spasfon est en effet le 19e médicament le plus prescrit en France, principalement pour des douleurs gynécologiques, qu'il s'agisse de règles douloureuses, de cystite ou encore de pose de stérilet. 3,9 millions de patients et surtout de patientes sont ainsi concernés chaque année.
Pourquoi c'est une enquête ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on apprend donc dans le livre, c'est qu'il y a très peu de données scientifiques pour justifier l'usage massif que l'on fait du spasfon en France, du fait que les données scientifiques ne sont pas suffisantes. Comme la molécule n'est pas totalement inactive, il y a des cas d'effets secondaires assez graves, même s'ils sont rares. Je propose de considérer le spasfon comme un placebo impur. Et pour moi, ça pose des questions éthiques, épistémologiques et aussi la question du sexisme dans la médecine française. Moi, mon objectif premier, c'était quand même d'alerter les patients, les patientes. Ça a plutôt tourné assez largement.
Il y a peu d'études sur le spasfon. Elles sont peu ou pas du tout concluantes. Et quand elles le sont, c'est pour autre chose que ce pourquoi il est massivement prescrit en France. Par exemple, souvent, c'est pour des règles douloureuses. Vous savez quoi ? Sur ce sujet, il y a zéro essai. Rien, nada, même pas un petit truc un peu pourri.
Tout le travail médiatique a été fait presque intégralement par des journalistes femmes qui se sentaient concernées par ce sujet, soit parce qu'elles-mêmes avaient l'impression que ça ne fonctionnait pas, ou parce que ça leur parlait, tout simplement parce qu'en fait beaucoup d'hommes ne savent même pas ce que c'est. Ensuite, la communauté médicale, donc j'ai eu énormément de soutien. J'ai aussi eu des témoignages de médecins en hôpital. C'est comme si ça les avait réveillés un peu d'une torpeur, parce que je pense qu'ils savaient plus ou moins, mais pas vraiment, qu'il n'y avait pas de données scientifiques. Et qui disaient, par exemple, ils le donnent aussi en cancérologie, en soins palliatifs. On pense que c'est un antidouleur, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser dans n'importe quelle chose. Il y a aussi en colique néphrétique, des choses extrêmement douloureuses. Après, les autorités sanitaires, par contre, ne semblent pas vouloir se saisir du problème.
La question que ça m'a posée tout de suite, c'est comment est-ce possible? Comment un médicament aurait-il pu être mis sur le marché sans preuves scientifiques suffisantes quand on connaît toutes les mesures et contrôles qui existent?
Même si ça peut être étonnant, c'est juste qu'il a été mis sur le marché dans les années 60, à une époque où on n'avait pas des critères scientifiques très rigoureux. En France, c'est très très tardif, les critères scientifiques rigoureux pour les essais cliniques. Et en fait, ça n'a pas été remis à jour. On ne s'est pas dit à un moment donné, OK, on a tous ces vieux médicaments, on devrait peut-être les remettre en cause si les données scientifiques ne sont pas suffisantes. Ce que j'explique dans le livre, c'était qu'à l'origine, donc le spasfon et sa molécule, donc le fluoroglucinol, c'était pas du tout considéré comme un antispasmodique. C'était considéré comme un médicament qui allait agir sur la bile et guérir ce qu'on appelait la crise de foie ou la dyskinésie biliaire. Enfin, ça faisait partie des catégories de maladies d'époque. Donc voilà, le spasfon, il est né pour une maladie qui n'existait pas, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais ils ont vite changé d'idée de mécanisme pour le médicament, puisqu'ils ne savaient pas exactement quel pouvait être son mécanisme d'action, s'il y a action. Et donc, ils sont passés, avant la mise sur le marché du médicament, à l'idée que c'était un antispasmodique. Et c'est comme ça ensuite qu'on a rajouté progressivement, donc d'abord les règles douloureuses, puis les douleurs abdominales, puis aussi tout ce qui est obstétrique. Donc en se concentrant vraiment sur des maux dont les femmes sont les plus concernées. Les règles douloureuses, c'est pas du tout juste des spasmes et les spasmes qui causent la douleur. Le mécanisme de la douleur est beaucoup plus complexe. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en fait, à l'international, les recommandations pour les règles douloureuses, c'est pas des antispasmodiques, mais des anti-inflammatoires. Et une autre explication, après tout l'enjeu du livre, c'est d'essayer d'expliquer donc cette sorte d'immobilisme, cette sorte d'inertie. C'est tout simplement en fait qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme pour les autorités sanitaires. On ne regarde pas vraiment vers le passé. On ne se dit pas, et si on regardait les anciens médicaments, est-ce qu'ils ont vraiment des bonnes données scientifiques? Et je pense que malheureusement, il y a probablement d'autres cas de médicaments en France qui sont dans la même situation que le spasfon, du fait qu'on ne s'est pas dit on va réévaluer tous les anciens médicaments. Ou alors on ne l'a pas fait correctement. Et du coup, forcément, il nous reste des médicaments qui sont comme ça, des habitudes dans la pratique de prescription des médecins, mais qui ne reposent pas forcément sur des données suffisantes. C'est l'idée que ça ne va pas faire de mal, donc on va prescrire quelque chose, et qu'au pire du cas, peut-être il y aura donc le fameux effet placebo.
Un autre élément important, selon Juliette Ferry-Danini, pour expliquer que le spasfon continue d'être massivement prescrit, c'est que cela serait également la résultante d'un biais sexiste en médecine.
Une hypothèse que je fais dans le livre, il y a aussi le sexisme, tout simplement. Comme le médicament est prescrit largement et majoritairement à des femmes, le fait qu'il y ait un immobilisme témoigne de sexisme. Est-ce que après c'est dû au sexisme? C'est beaucoup plus compliqué de le démontrer. Disons qu'il y a un faisceau d'indices. On ne peut pas forcément, en histoire, avoir des preuves parfaites. Ce que je montre, c'est que ce qu'on voit dans les archives administratives, c'est que pour l'indication des règles douloureuses, les données nécessaires à l'approbation du médicament pour cette indication étaient beaucoup plus faibles que pour les autres indications thérapeutiques. Donc déjà, là, c'est irréfutable qu'il y a eu un biais sexiste à ce niveau-là. Et on sait que la douleur des femmes, notamment, est moins prise en compte que la douleur des hommes, tout un tas de choses comme ça.
Elle cite d'ailleurs dans son livre le site internet du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, sur lequel on peut lire « Il faut rassurer la jeune femme quant à la banalité et à la bénignité de ses douleurs. Il faut expliquer le mécanisme des règles et le cycle et dédramatiser la situation, parfois montée en épingle par l'entourage et par la mère. »
Donc ça dit quelque chose de comment on voit la douleur, notamment des femmes. C'est pas des douleurs suffisantes pour avoir une vraie intervention médicale. Et je pense que c'est très problématique.
Cet extrait de l'entretien « Débat et vice-versa » entre le psychiatre et pharmacologue Jean-Jacques Aulas et le médecin généraliste Rémy Boussajon semble en effet confirmer cette intuition.
Dans le Vidal, qui est le dictionnaire des médicaments des médecins, il y a un nombre de l'ordre de 60% de médicaments qui sont très vraisemblablement des placebos impurs, c'est-à-dire des médicaments qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité versus placebo pur.
Pour le critère pour lequel ils sont prescrits.
Absolument.
Mais alors, lorsqu'on prescrit un placebo impur, est-ce qu'il y a réellement préjudice pour les patients à qui on le prescrit ? Est-ce que le fameux « ça peut pas faire de mal » s'applique et peut justifier sa prescription ?
Du coup, c'est tout l'objet de la dernière partie de mon livre qui s'appelle « Un placebo peut vous faire du mal ». Il y a plusieurs questions. Il y a la question de « est-ce que ça peut pas faire un mal ?» au niveau médical, un préjudice médical, et ensuite il y a la question morale et éthique. Et donc selon moi, ça peut causer un tort des deux côtés. Du côté médical, il y a déjà la question de savoir est-ce que l'effet placebo peut vraiment avoir un effet thérapeutique pertinent, utile, enfin bref, est-ce qu'on va vraiment se sentir soulagé parce qu'on a pris un placebo, qu'il soit pur ou impur. J'ai l'impression qu'en France, on surestime énormément l'effet placebo, enfin la capacité thérapeutique de l'effet placebo. Je pense qu'il faut vraiment être prudent sur ça, être relativisé énormément. C'est que les gens souvent comprennent mal ce que c'est un essai clinique. Et c'est ça aussi qui les mène à surestimer l'effet placebo. Puisqu'on entend souvent dire « le médicament a fait ses preuves par rapport au placebo ». Et donc peut-être que des personnes se disent « si c'est pas le cas, s'il fait pas ses preuves contre le placebo, alors le placebo lui fait ses preuves ». On confond un peu ce que c'est un essai clinique. Il faut bien se rappeler que quand on fait un essai contrôlé, donc il y a les deux groupes, le groupe où on va donner le médicament qu'on va tester et un groupe placebo. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'effet qu'il va avoir dans ce groupe placebo, c'est pas juste l'effet placebo. Il y a plein d'autres choses comme l'évolution naturelle de la maladie. On fait un tort aussi moral et éthique, c'est-à-dire qu'on accepte que des médecins mentent d'une certaine façon ou alors ils se trompent, ça peut être l'un ou l'autre, à des patients et surtout des patientes. Et le problème, c'est que si on nous ment en tant que patiente, ensuite, on ne peut pas se rebeller, on ne peut pas dire non, on ne peut pas consentir, on est dans une situation de soumission. Et comme c'est un médicament qu'on prescrit de façon massive, j'ai l'impression que ça normalise presque le mensonge en médecine, en fait. Ça peut avoir des conséquences négatives sur la pratique médicale, du type « on va perdre la confiance des patients », etc. Ça peut potentiellement pousser des femmes en dehors de la médecine. En fait, on sait qu'elles utilisent beaucoup les médecines alternatives, et tout ça, mais en même temps, si on donne le placebo, ça change rien, finalement. Donc, est-ce que ça vaut le coup de laisser des hommes et des femmes en souffrance inutilement ? Est-ce que ça vaut le coup de leur mentir ? Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de ne plus avoir leur confiance ?
Elle m'a confié qu'elle s'attendait, en fait, à ce que la publication de son livre entraîne une levée de bouclier, avec beaucoup de femmes qui défendraient le space-fond en expliquant que cela fonctionnait pour elles. Mais, à sa grande surprise, cela n'a pas été le cas. La plupart des réactions, que ce soit des femmes interrogées pour son enquête ou celles qui ont lu le livre, c'est « j'en étais sûre, j'ai toujours su que ça ne marchait pas, ça ne m'étonne pas ». D'ailleurs, petite suggestion, je vous invite à faire le test autour de vous. C'est assez édifiant. Et donc, si l'argument consiste à dire que, grâce à l'effet placebo, le space-fond va parvenir à soulager quand même la douleur des patientes, ce qui, au fond, est ce qu'on recherche, force est de constater que le résultat n'est pas au rendez-vous, ou en tout cas, beaucoup trop rarement pour en justifier l'usage. Il ne faut pas oublier non plus que, même si un placebo peut soulager la douleur dans certains cas, grâce à l'effet placebo, son efficacité reste nettement inférieure à celle d'antalgiques reconnus, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et puis, en plus de tous les préjudices déjà mentionnés, il y a aussi le tort économique causé. En 2023, l'assurance maladie a en effet remboursé 9,7 millions de boîtes de space-fonds pour un total de 6,7 millions d'euros. Ça semble cher payé pour un médicament qui n'a pas su démontrer son efficacité. Au point que la France est le seul pays à en faire un usage aussi massif. Les rares autres pays à l'avoir autorisé sont l'Italie, la Belgique, le Maroc, le Mexique et la Corée du Sud, mais pour des usages beaucoup plus restreints. Et il n'est pas autorisé dans les autres pays occidentaux, comme les États-Unis. Cette notion de préjudice, Juliette Ferry-Danini n'est pas la seule à la ressentir. C'est le cas aussi de nombreuses femmes qu'elle a interrogées dans le cadre de son enquête. Et c'est pour cela qu'elle a aujourd'hui envie d'aller plus loin, en leur donnant la parole.
J'ai une étude sociologique que je prévois de faire sur ce qu'en pensent les personnes à qui on a prescrit le space-fond. C'est pour comprendre encore plus loin la question du préjudice de la prescription du médicament. Et pour ça, de donner la parole aux personnes concernées, celles qui ont reçu ces prescriptions. Mon intuition, c'est que beaucoup de femmes sont en colère. On a l'impression de ne pas avoir été écoutées. En gros, d'un médicament pour faire taire, quoi. Quand j'ai publié le livre, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes en colère. outrée de découvrir ça. Ah ben oui, alors j'étais pas folle. Donc il y a aussi tout cet aspect de gaslighting. Voilà, il y a une étudiante qui a utilisé ce mot. C'est l'idée qu'en gros, toute votre vie, vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que ça fonctionne? Et donc il y a une sorte de travail cognitif que vous devez faire. On fait aussi beaucoup ce travail quand on est femme avec nos contraceptions, etc. Est-ce que cet effet secondaire, c'est la contraception? Ou est-ce que c'est juste qu'en ce moment, je suis comme ça? Et donc, il y a tout le temps une sorte de travail cognitif à faire sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que c'est moi? Pourquoi, etc. Et je pense que ça pose aussi un tort aux personnes de se retrouver dans cette confusion totale de tout le monde me prescrit ça, mais moi, ça me fait rien. Donc, bah, ça doit être moi le problème. Et puis aussi juste la colère de découvrir le pot aux roses. Et aussi, il y a un autre truc beaucoup plus spéculatif où je m'interroge sur le fait que beaucoup de ces personnes qui ont témoigné à la suite de mon livre semblent dire qu'elles avaient déjà conclu ou elles savaient déjà que le médicament ne fonctionnait pas. Et donc, les patients, les patientes auraient un rôle à jouer dans cette surveillance de l'efficacité des médicaments après l'introduction sur le marché, que je trouve intéressante philosophiquement.
Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore, avec plus de questions à la fin qu'au début de cet épisode. Et en particulier, il y a une question qui me taraude. Est-ce que c'est vrai que les médecins nous mentent délibérément? Rendez-vous demain, même heure, pour voir ce que les médecins ont à nous dire. Et en attendant...
Est-ce que je te demande si ton chat aime la techno?
Des questions plein la tête? Une série à réécouter en podcast sur Radio Campus Grenoble à la page de l'émission.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, ça t'aura jamais. De petite sœur, je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se taire dans le tiède de tes reins? Tu n'as pas mal là où je chante.